rock and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie. Bien le bonsoir, Rockologie consacrée à Monsieur Guy Stevens, le producteur entre autres d'un très grand nombre de grands groupes qui ont compté le rock britannique. Je pense bien entendu à Mötley Crüe. Il a produit aussi des Clash. Il a fait énormément pour le rock anglais et puis il est mort assez prématurément en 81 des suites d'un alcoolisme récurrent et d'une overdose de barbiturique. C'est ça un petit peu le rock'n'roll et puis on va en parler ensemble de 21h à 22h. Guy Stevens, l'œuvre d'un producteur britannique. On va commencer avec justement une de ses premières signatures. Un groupe qui nous venait de Carlisle, tout au nord de l'Empire britannique, pas très loin des Écossais, les Vipes, qui allaient devenir un petit peu par la force des choses, sous l'impulsion d'un chanteur américain, les Spooky Tooth. Les Vipes étaient un groupe, on va dire, qu'on pouvait rattacher à la scène rhythm and blues, avec un chanteur à la voix d'or, en la personne de Mike Harrison, d'excellents musiciens, je pense notamment à Luther Grosvenor, excellent guitariste, et Greg Ridley, bassiste virtuose qui finira du côté des États-Unis avec Humble Pie et Steve Marriott. Mais pour l'heure, on va les écouter avec un single extrait de leur collection de singles, puisqu'ils n'ont pas enregistré de grand LP, de disques avec plusieurs titres. Ils avaient juste à leur actif une collection de singles, dont ce I Wanna Be Free qui avait été produit par Guy Stevens. Et Guy Stevens, ce qui a un petit peu fait sa particularité, c'était il avait commencé comme DJ dans les années 60. Il avait longtemps œuvré dans le microcosme moderniste avant de s'attaquer au métier de producteur et puis de compiler, puisqu'il avait aussi une grande passion pour le rock'n'roll et qu'il avait co-animé plusieurs labels de réédition, notamment Sue Records, qui était plus dévoué à la cause de la soul music. On va écouter les Vipes avec I Wanna Be Free. Justement, ça tombe bien, c'est une cover d'un classique de Joe Tex produit par Guy Stevens. You know, I don't mind working. Standing on my feet, 'cause I've got 9 children and they all gotta eat. I don't mind working my fingers to the bone. Oh yeah, you gotta let me go where my work is done. I wanna be free. I gotta be free. Now take away these chains that are binding me, because I wanna be, yeah, free. You know, every month I get bills.
Wanna be free.
And my wife has me.
Wanna be free.
And some of them I tell you. In my children's mind, I wanna be free.
Wanna be free.
Said I gotta be free. Be free.
harder I work,
wanna be free.
The faster my money goes,
wanna be free.
And some of that I wanna tell you,
wanna be free.
I gotta take it kinda slow,
wanna be free.
Make no difference how hard I work,
wanna
yeah.
Be free.
And some of my man,
wanna
oh
be
yeah.
Free.
You know all I get is a pat on my back. I wanna be free. Wanna be
des perles musicales issues du psychédélisme anglais comme on les aime ici à Rockology, avec une émission consacrée justement au génie du producteur Guy Stevens, qui a été longtemps, on va dire, affilié à la, au début de carrière de Mott de Hoople, qui a longtemps aussi été associé à la formation de Procol Harum, je dis longtemps mais d'une façon permanente. Et puis il a surtout aussi co-créé le label anglais Island Records, un des premiers labels du circuit indépendant, avec Chris Blackwell, qui a été lui aussi grand amateur de musique et qui avait été l'un des principaux, on va dire, pourvoyeurs de rock, fait de reggae aussi, au travers de diverses, on va dire, signatures sur ces divers labels. Guy Stevens donc avait été un producteur maison pour le compte du label. Il avait pris comme ça son aile protectrice un groupe qui nous venait de Londres, Heavy Jelly, qui renfermait dans leur contingent, dans leur rang d'excellents musiciens qui allait réapparaître la décennie suivante au sein des Blockheads, le groupe de Yann Dury. Donc un groupe bien qui s'inscrivait dans l'air du temps, avec des chansons très psychées et chargées en effets psychés, et puis distorsions sur les guitares, et puis surtout des paroles, des chansons avec des paroles complètement azimutées et sans sens bien particulier. Heavy Jelly, qui était une émanation du groupe anglais Skippy 30, qui lui aussi avait été produit sous ce nom par Scott, je vais y arriver, Steve Marriott, des Small Faces. Et oui, ce soir c'est un démarrage un petit peu laborieux. Humble Jelly, c'est fait. Humble Jelly, qu'est-ce que je dis? C'est Heavy Jelly, je vous l'ai dit. Hein. Et puis là, on va attaquer le chapitre le plus intéressant de ta carrière, avec la signature d'un groupe qui allait faire un passage météorique pour le label Island Art, qui était la jonction entre les Vibes qu'on a écouté en début d'émission et puis ce qui allait devenir les Spooky Tooths. Sous l'impulsion de Gary Wright, le chanteur et puis organiste américain, qui allait donner un petit peu la réplique au sein du Spooky Tooths, Mike Harrison et sa voix très très noire. Et puis surtout, on va reparler un petit peu plus tard, Spooky Tooths est à l'origine d'un des premiers albums rock opéra ou concept album, avec l'album Ceremony, qui avait été co-écrit et géré avec Pierre-Henri. Allez, on s'écoute dans le désordre, Spooky Tooths, et puis après on emboîterait le pas avec Art. Spooky Tooths avec Sunshine Help Me, un titre empreint d'un espèce de... allez, j'en dis pas plus.
Crazy dreams and mind-blowing schemes will get you. Yeah, yeah, yeah. People's talking about the hook, tripping round the clock, around the block. Turn your mind on the kind that get your mind turned easy, turn your mind. You're the kind, get your mind turn. Oh,
Donc ouais, à l'instant c'était un embryon du titre de Heart qui malheureusement on va dire sur un support vinylique avec un son plus qu'approximatif, donc je vais essayer de remédier à la chose le plus simplement possible en engageant la cellule dans le bras du lecteur vinyle, n'est-ce pas? Et juste pour l'aparté, j'ai retrouvé le mot justement qui m'avait échappé. C'était le mysticisme, bien sûr, bien entendu. Avec un titre, Sunshine LP, comme le servait Spooky Tooth en 69 sur leur premier album. Ça ne pouvait être qu'une preuve de leur mysticisme avoué et grand consommateur de LSD comme il se doit à l'époque. Allez, je règle tout ça et puis on repart avec Art et puis un titre tout en douceur. Bah non, il ne va toujours pas, donc on fera la passe exceptionnellement sur ce groupe, on va dire, d'envergure, puisque c'était le groupe qui faisait la jonction entre les deux formations, les Vibes, qui étaient d'une sensibilité très rhythm and blues, très racée, avec ce chanteur à la voix très haut perché, et puis les Spooky Tooth, qui étaient un petit peu l'antichambre de ce qu'allait devenir le rock progressif, voilà, avec justement l'apport de Gary Wright. Alors, parlons aussi un petit peu du jeu du producteur de Guy Steven, qui lui privilégiait quand même de signer des groupes qui sortaient un petit peu des sentiers battus, puisqu'on était en 69, il restait quand même tout à faire au niveau du rock'n'roll. Et un groupe qui avait un petit peu marqué les esprits parce que ils étaient très bons, ils étaient assez proches de la virtuosité, c'était Free, le groupe de Paul Rogers et puis Andy Fraser avec le Guitar Hero. Alors j'aime pas bien le titre de Guitar Hero, plutôt un guitariste hors pair et puis très démonstratif en la personne de Paul Kossoff, qui en faisait des tonnes, mais qui avait un jeu de guitare incisif et très efficace. Puis derrière, il y avait une section de rythmique avec Simon Kirk à la batterie, puis surtout le Andy Fraser. Donc un groupe d'exception, Freak, qui avait été signé justement chez Island par Guy Stevens, qui s'était chargé comme ça de la production de leur premier album Tones of the Subs, porté par deux singles. Alors que je m'en mêle pas les pinceaux, je pense qu'il y avait I Am The Mover qu'on va écouter, et puis Walk In My Shadow. Enfin bon bref, l'album était d'une couleur assez blues, avec quelque chose en plus qui allait vraiment marquer les esprits. Et puis le chanteur Paul Rogers, il en avait dans le coffre et il l'envoyait. Ain't got nobody to call my own. You know I've been moving since the day I was born. Life is a game, yeah, just made for fun. I don't need nobody, you know I don't love no one. Yes, I'm a mover, baby. Musicologie, l'émission à remonter l'histoire du rock avec une émission consacrée justement au producteur Guy Steven, et puis ses différentes implications dans les projets de groupes de rock anglais, avec à l'instant Free et leur premier album Tone of Souls, pour un blues assez atypique avec un chanteur à la voix d'or et puis un guitariste complètement azimuté. Un autre groupe qui avait quand même marqué les esprits à l'époque, c'était Traffic. Traffic qui avait été aussi signé chez Island Records. Le troisième album avait été produit entre Chris Blackwell et puis Guy Stevens, qui s'était partagé sur l'ensemble. Je crois qu'à l'origine, l'album devait faire 6 ou 7 morceaux, si je ne dis pas de bêtises. Voire même plus, parce que j'ai une édition CD qui a vraisemblablement pas mal de bonus. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un titre qui marquait un petit peu, qui marquait la rupture, bien que Traffic peut s'inscrire dans ce contexte de groupe un petit peu, on va dire, défricheur et puis pionnier dans la matière, puisqu'il servait une espèce de folk, funk, ça partait dans tous les sens. C'est à la fois très psyché pour les premiers albums, je pense notamment à Pepperson, leur premier single, avant de se muer en une espèce de machine à groove. Alors, il faut savoir que c'était le deuxième groupe de Steve Winwood qui s'était illustré au sein du Spencer Davis Group, voilà, j'y retrouve. Et lui, donc Steve Winwood, était relativement jeune à l'époque, il avait à peine une vingtaine d'années. Il avait commencé sur le circuit professionnel à 16 ans, il était lui aussi doté d'une voix assez particulière et c'était un grand fan de Ray Charles. Mais au sein de Traffic, il va explorer des choses un peu plus, on va dire, un peu plus aventureuses. Je pense notamment au folk. Et ça va donner ce titre produit par Guy Steven qui s'appelle Every Mother's Sons. Il y en a pour 7 minutes. Et ça lorgne entre le folk et puis le rock progressif avec des développements assez particuliers.
Yeah.
Rockology, l'émission à remonter l'histoire du rock consacrée au génie du producteur Guy Stevens avec un titre issu du troisième album de Traffic. Traffic était, rappelons-le, le groupe de Steve Winwood et de Jim Capaldi et James Dave Mason. Il en avait un quatrième dont j'ai mangé un peu le nom. Quoi qu'il en soit, Traffic, comme on l'avait dit, s'inscrivait justement dans cette mouvance de groupes un petit peu pionniers, défricheurs de et puis surtout allergiques aux limites instituées par les genres musicaux, puisqu'il faut le dire, leur titre Every Mother's Son appelle autant au folk, au rock progressif qu'à des choses un peu plus, on va dire, jazz. Donc un groupe qui connaissait aucune limite au niveau du style et qui avait une certaine idée de la virtuosité, parce qu'ils jouaient très bien de leurs instruments, ça va de soi, et puis surtout il y avait un talent de composition dans ce quatuor qui a fini par installer le groupe comme l'un des plus importants de sa génération. Traffic, avec leur troisième album John Balancore Must Die, truc comme ça. Et puis puisqu'on parle du génie du producteur Guy Stevens, on va évoquer le nom de Mighty Baby, qui était le groupe qui allait donner suite à l'aventure des Action, des grands groupes actifs entre 65 et 69 pour ce qui est de la scène mode. Les modes, rappelons-le, c'était une tribu de jeunes prolos issus des classes ouvrières qui se rêvaient en nouveaux riches et qui étaient des fervents consommateurs d'amphétamines et de grands amateurs de rhythm and blues et de pop et puis de rock puristes. Ils étaient puristes dans l'âme. Et puis, Lee Action en ont fait partie. C'était un groupe qui nous venait de Kentish Town dans le nord de Londres et qui était animé par un chanteur toujours avec une voix très caractéristique. Reg King, qui avait une voix de noir avec une couleur de peau blanche. Et puis, derrière, ça jouait sévère. Le batteur avait une particularité, c'est qu'il jouait avec deux grosses caisses. Alors ça donnait quand même une rythmique assez martiale et puis très entraînante. Et les Mighty Baby avaient emboîté le pas sur l'influence instituée par le psychédélisme, hein, qui était alors en vigueur et puis était partout à l'époque en 69. Et Guy Stevens avait pris sous son aile le groupe, parce que je pense qu'il avait flairé le potentiel artistique et musical, et surtout cette volonté de décloisonner un peu les genres, chose qu'avait fait aussi Mighty Baby au même titre que Traffic. Ils avaient quand même importé dans la musique des règles du jazz modal et puis de la musique indienne. Et puis ça avait donné ce premier album éponyme sorti en 69 sur Ed Records, qui est devenu par force de rareté, parce qu'il s'était très peu vendu à l'époque, est devenu un collecteur. Et puis on va écouter justement de cet album le troisième morceau. Je vous le donnerai après l'avoir écouté, le titre. Mighty Baby, premier album en 69, produit par Guy Stevens dans Rockology.
Anticipating rain, a cloud is hanging over me. The feeling's very strange. I can't ignore it anymore. The rain comes, makes the truth come clean between people. Purifies the spirit. Very soon you will ask a question. Did you come the same way? Anticipating light, expecting everything.
the circumstances right. Prepare yourself for anything. Ancient traveler might help you. In fact, he might help you at all. Don't forget to ask yourself the question, where did you think it all begun? We came the same way from the sun.
On en sort rarement indemne de l'audition de ce premier album de Mighty Baby avec le titre qui s'appelait Somewhere from the Sun, avec ses riffs de guitare tout droit échappés d'un disque du Grateful Dead. Et puis, alors je l'avais dit, il y a un petit côté très jazz, un petit peu en roue libre dans l'univers sonore de ce groupe qu'on peut classer psyché anglais qui avait été produit par Guy Seven. Alors, une autre chose aussi concernant ce producteur, c'est qu'il avait quand même un goût immodéré pour les choses très sophistiquées. Et puis, il avait une méthode de travail bien à lui. C'est qu'il se mettait derrière les musiciens et puis il commençait à les narguer, mais physiquement. Alors, ça énervait le musicien et puis il s'emballait. Non, c'est pas une légende. Il y a une vidéo sur YouTube avec Joe Strummer juste derrière une... Joe Strummer de The Clash, derrière une cloison. Parce qu'il faut le dire, il a produit The Clash, le bonhomme. Il a produit London Calling. Donc voilà, il avait cette manière tout à lui de motiver les troupes. Et puis on avait évoqué le nom de Mott de Hoople, le groupe prolétaire par excellence de Ian Hunter, Mike Ralph et puis les autres, qui eux s'inscrivaient dans une veine très rock terre à terre avec un premier album qui sortira chez Island Records puisqu'ils étaient signés de 69 à 71 le temps de 3 albums sur Island Records, le label, rappelons-le, de Chris Blackwell. On écoute justement Mott de Hoople et Rock'n'Roll Queen. Les Mott de Hoople, grand représentant du rock'n'roll prolétaire anglais. Mott pour le nom de Mott et Hooper qui faisait bien entendu référence à une expression en argot anglais qui voulait dire perdant. Autant dire qu'ils avaient tout dans le nom. Ils avaient commencé à décoller en 73 avec All the Way to Memphis, si je ne m'abuse, qui avait été un énorme tube en 73. Et le groupe avait été parrainé pour l'occasion par Bowie. Mais avant de 69 jusqu'à 70, au niveau du classement, Nib, quoique des classements, on va dire, tout à fait, on va dire, anecdotiques. Et puis un succès d'estime, et puis surtout une foncière, enfin un goût assez, on va dire, prononcé pour le rock bas du front, comme le servaient les Rolling Stones, période Berger's Banquet. Un truc qui va droit au but, sans fioriture. Alors là, c'est vrai qu'on a eu le droit vraiment au versant le plus radical et le plus brutiste, puisque dans le registre sonore, il y avait un autre versant. Registre sonore du groupe, il y avait un autre versant qui était lui beaucoup plus folk. Alors on pourrait définir leur style par un croisement entre le rock'n'roll de au hasard Buddy Holly avec le folk de Bob Dylan. Voilà, c'est vraiment grossi à 180 000 degrés, mais c'est un peu ça schématiquement. Et puis Guy Stevens avait eu sa traversée du désert dans les années 70. Il nourrissait un espèce de penchant malsain à la bouteille puis aux amphétamines, ce qui lui avait valu plusieurs séjours en prison, puisque le cocktail alcool et amphètes, ça excite lourdement, et puis il avait quand même un comportement assez erratique et puis complètement ingérable. Donc il avait fait plusieurs séjours en prison, il avait été il ressortait d'une façon assez épisodique. Il avait produit les Clash, qu'on va écouter en fin d'émission, mais pour l'heure on va découvrir un groupe qui lui a plus à voir avec le pop rock, comme le servait Ian Dury et ses Blockheads. Les Winkies, qui avaient enregistré un unique album en 75, qui avait été édité chez Island Records, encore et toujours. Un éponyme, avec une pochette, on va dire, hautement suggestif. Les quatre membres du groupe, pris à hauteur de torse, avec tous habillés avec des maillots de bain. Les Winkies, qu'on va écouter avec Davé Blowtorch. On risque de rester sur un registre un peu rock.
Yeah.
Eh bien, nous avons été surpris par le gong, les Winkies, et puis on va finir l'émission consacrée à Guy Stevens avec justement chose promise, chose due, le Clash avec une cover de Brand New Cadillac qui était de Vince Taylor, justement pour faire la jonction avec Pastoral Mechanics.
Merci bonsoir, pour Stéphane. La transition, Cyril. Bonsoir, bonsoir Cyril, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Avec ce magnifique Brand New Cadillac.
Bah ouais, on se quitte là-dessus et puis on se donne rendez-vous ici même la semaine prochaine et puis je laisse ma place à Stéphane et son...
D'ailleurs, la pochette, pour l'anecdote, la pochette de London Calling est quand même très largement inspirée, pour pas dire pompée, sur
Elvis Presley.
Premier album d'Elvis, exactement.
Ciao, bye.